Radio Kapi.
Les informations, Baben Pongo Massimango.
Madame, Monsieur, bonjour. À la une, ces chiffres. Environ 56 millions d'enfants RDC risquent de souffrir des effets de changement climatique puisqu'ils vivent justement dans des milieux exposés à ce danger. C'est le directeur de la Direction du développement durable au ministère de l'Environnement qui a révélé ces chiffres hier au cours d'un atelier à Kinshasa. Des détails dans ce journal. Nous parlerons aussi de l'impact du téléphone portable dans le couple. Nous nous rendons pour cela dans la ville de Bounia en Ituri. Si la majorité reconnaît le grand service que cet outil devenu incontournable dans la vie rend au quotidien, d'autres estiment que son utilisation abusive peut briser des couples. Jean-Claude Lokidile s'y est penché. Notre invité Fifa Mikaba, président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC au Grand Bandundu. Il dénonce la multiplicité des barrières érigées sur la route Kinshasa-Kikwit. Il parle de 15 au total avec au finish un impact négatif sur le prix des biens. Bienvenue à cette édition d'information. Nous commençons par ces chiffres. Environ 56 millions d'enfants, soit près de la moitié de la population de la RDC, vivent dans des milieux exposés au risque dû au changement climatique. Ces statistiques ont été dévoilées hier jeudi par le directeur de la Direction de développement durable au ministère de l'Environnement. Aimé Mbuyi Kalombo les a annoncées au cours de l'atelier des validations techniques de l'analyse du paysage climatique pour les enfants en RDC, travaux organisés à Kinshasa avec l'appui de l'UNICEF. Des précisions à ce sujet avec Blaise Ndongala Mayanda.
Ces hauts fonctionnaires du ministère de l'Environnement estiment que ce forum a marqué une étape déterminante dans les processus d'amélioration des réponses aux risques climatiques et environnementaux affectant les enfants en RDC. À cette occasion, des experts étatiques et non étatiques ont validé l'analyse du paysage climatique pour les enfants congolais. Ces documents visent à mettre les tout-petits à l'abri des effets du changement climatique à travers les pays. Les participants à cette rencontre plaident pour la mise en œuvre du Conseil national sur le climat et de l'environnement pour coordonner les actions relatives au changement climatique en RDC. Ils insistent également sur la mise en place des mécanismes transparents d'affectation d'une part des bénéfices issus des financements carbone vers des investissements résilients en faveur des enfants. De son côté, le chef de la section Watch et Climat à l'UNICEF, Joachim Peters, juge nécessaire que ces documents deviennent un outil stratégique d'aide à la décision capable d'orienter les politiques publiques, la planification sectorielle et les investissements dans les provinces les plus affectées.
La promotion de la production locale, la préservation de la biodiversité du bassin du Congo et la réduction de la dépendance alimentaire de la République démocratique du Congo, ces sujets ont été au cœur d'un atelier de réflexion organisé hier jeudi à Kinshasa. Cette rencontre marque ainsi le lancement d'une nouvelle alliance pour l'agroécologie et la souveraineté alimentaire, initiative portée par des acteurs de la société civile. Selon Josué Aruna, l'un des animateurs de cette initiative, l'objectif est de valoriser les habitudes alimentaires traditionnelles, renforcer les capacités des communautés et faire de la RDC un pays capable de nourrir sa population tout en protégeant ses écosystèmes. Je suis Aruna, au micro de Blaise Ndokala.
Il est question de mettre en place une alliance nationale qui a la mission de promouvoir la souveraineté alimentaire dans notre pays. Et cette souveraineté alimentaire doit incarner nos traditions, nos valeurs culturelles dans le bassin du Congo qui concourent à conserver d'un côté la biodiversité et à protéger les écosystèmes du bassin du Congo. Parce qu'il n'y a pas de souveraineté alimentaire sans agroécologie. Voilà pourquoi nous avons décidé de réunir les acteurs divers venus de tous les coins de la RDC pour qu'ensemble nous puissions lancer ce chantier d'un mouvement national qui défend les intérêts des communautés dans le cadre de la souveraineté alimentaire. C'est aberrant de voir la RDC un pays solution, mais nous ne sommes pas solution pour notre nourriture. Nous commençons à dépendre des nourritures qui viennent des autres pays alors que c'est nous qui devrions nourrir les autres.
Faciliter l'accès aux soins de santé de qualité pour toutes les couches de la population, c'est l'objectif d'un atelier en cours depuis mercredi à Kinshasa. Il est organisé par l'ONG Si Jeunesse Savait. La rencontre vise à mobiliser les organisations de la société civile autour de la promotion d'un accès équitable aux soins de santé pour tous. À travers cet atelier, les organisateurs entendent renforcer leur plaidoyer en faveur d'un système de santé inclusif capable de répondre aux besoins des populations les plus vulnérables. Que retenir, Daniela Awa?
Les organisations de la société civile entendent jouer un rôle central dans la promotion de l'accès aux soins de santé de qualité pour tous. Pour y parvenir, elles misent sur la mobilisation des communautés et les plaidoyers auprès des décideurs, tant au niveau local que national. Un participant à cet atelier rappelle l'engagement de la société civile dans la défense du droit à la santé. Fabrice Mouteba.
Nous sommes là pour militer pour les droits à la santé, à ce qui concerne la sensibilisation, l'organisation des activités et la mobilisation de la communauté. Nous devons travailler d'arrache-pied, mener des activités de plaidoyer auprès des décideurs de la République au niveau national ainsi qu'au niveau local.
L'intervenant insiste également sur la nécessité de fédérer davantage d'acteurs autour d'une dynamique commune afin de renforcer l'impact des actions en faveur du droit à la santé. Maître Platini Alepe lance un appel à l'unité.
Je lance cet appel à d'autres camarades qui nous suivent de loin à pouvoir venir intégrer les mouvements pour que dans l'ensemble, en termes de synergie, nous unissons nos forces pour amener des actions visant à défendre les droits à la santé de la population congolaise.
Un appel à l'engagement collectif pour faire du droit à la santé une réalité concrète pour chaque Congolais.
Parlant à présent de ce qui est devenu en fait société, le téléphone portable, déjà incontournable dans la vie quotidienne, s'invite aussi dans l'intimité des couples. À Bounia, certains témoignages révèlent que son utilisation abusive peut fragiliser, voire briser des relations. Alors entre manque de confiance, surveillance et conflit, quels sont les véritables impacts du téléphone sur la vie de couple? Jean-Claude Lokidi les signe ce reportage.
Dans plusieurs ménages à Bounia, le téléphone n'est plus seulement un outil de communication, il devient parfois une source de tension et de conflit. Messages consultés en cachette, appels surveillés, soupçons d'infidélité, ces pratiques installent progressivement la méfiance dans le couple. Denis Dalanga, conseiller conjugal.
L'homme peut entrer dans la douche en train de se laver, mais par contre la femme est en train de checker, vérifier des choses parce qu'elle n'a pas confiance.
Pour certains habitants, accéder au téléphone de son partenaire ne pose pas de problème si la confiance est mutuelle, mais pour d'autres, cela constitue une atteinte à la vie privée. Arthur Ngoma.
Si par exemple, je prenais le téléphone de ma femme et qu'il y a des discussions avec ses copines, ses connaissances, et si cette connaissance-là a employé un terme comme par exemple « chérie, bonjour », et pourtant c'était de la blague, et moi qui tombe sur ce téléphone-là, je serais fou de colère.
Selon les experts, cette méfiance permanente peut entraîner des conséquences graves sur la santé mentale et la stabilité du couple. Denis Dalanga le confirme.
Les chocs émotionnels peuvent ramener aussi quelqu'un à la mort, c'est parce qu'il a développé quelque chose par rapport au rejet qu'il a trouvé autour de sa relation conjugale.
Face à cette réalité, plusieurs voix appellent à privilégier le dialogue, la confiance et le respect mutuel au sein du couple. Bounia, Jean-Claude Loki, Guilé, Radio Capi.
Restons dans le social ici, dans la capitale cette fois, l'avenue de l'université. Sur son tronçon reliant le rond-point Gaba, l'intendant général de l'université de Kinshasa se trouve dans un état préoccupant. Une grande partie de la route est parsemée de nids de poules, tandis que les travaux de réhabilitation entamés sur une autre portion avancent de manière irrégulière. Les usagers de cette route s'interrogent de plus en plus sur la fin de leur calvaire. Jean-Marie Kanaï Mbassi a rendu son reportage.
Ces tronçons est essentiel car il relie les habitants des quartiers périphériques à l'université de Kinshasa et au rond-point Gaba. La circulation y est difficile, transformant les trajets en véritable parcours du combattant. Les travaux inachevés entraînent des conséquences visibles, embouteillages et hausse du prix des transports. Plus d'une année s'est déjà écoulée et l'avancement reste très lent, suscitant mécontentement et indignation parmi les usagers qui se demandent s'il s'agit d'un arrêt définitif ou d'une négligence des responsables.
Ceux qui ont commencé avec ces travaux ont une grande légèreté pour leur finition. Si tu regardes les autres, comme à Matete, les travaux sont finis, mais sur ce tronçon, non. Les travaux tirent à longueur. Nous ne savons pas s'ils veulent terminer les travaux à 2050. Nous donnons la faute au comité de suivi. Nous pensons que c'est de sa faute. C'est pourquoi nous demandons au chef de l'État de veiller à ce que ces travaux terminent pour nous faciliter la tâche, car le comité de suivi a montré ses limites.
Les usagers lancent un appel pressant aux autorités compétentes pour une solution rapide afin de faciliter la circulation sur ces tronçons très fréquentés.
Nous restons sur les routes à Kananga, dans la province du Kasaï central. Le prix du carburant connaît une hausse. Un litre se vend désormais à 5500 francs congolais à la pompe et à 3500 francs chez le revendeur communément appelé Kadhafi. Il y a quelques jours encore, ce même litre se négocie à 4500 francs congolais à la pompe et à 2800 francs chez le revendeur. Selon le président provincial de la Fédération des entreprises du Congo, cette situation est liée à la rareté de produits pétroliers consécutifs à la guerre au Moyen-Orient. Le Nord Kivu dispose désormais de son secrétariat technique provincial chargé de la mise en œuvre et de l'opérationnalisation de la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies relative à la jeunesse, la paix et la sécurité. Cette structure a été mise en place hier jeudi. C'est à l'issue du processus d'appropriation par les jeunes de leur plan opérationnel provincial jeunesse, paix et sécurité. Cela a eu lieu au cours d'un atelier regroupant plusieurs leaders des jeunes et des autorités intervenant dans le secteur de la jeunesse, travaux organisés par la section des affaires civiles de la MONUSCO à Goma. Pour le chef de la division provinciale de la jeunesse au Nord Kivu, ce secrétariat technique constitue une réponse concrète aux défis de coordination et vise à renforcer l'impact des actions en faveur de la jeunesse. Guy Kibigra explique l'importance de ce secrétariat où il est au micro de Marco Marofimbo.
C'est une réponse aux efforts éparpillés et des actions diversifiées et même dupliquées et les chevauchements qui s'observaient dans les actions en lien avec l'agenda jeunesse paix et sécurité. Aujourd'hui, le secrétariat vient comme un cadre de coordination, d'orientation des actions en veillant à ce que les actions des différents partenaires ou bailleurs puissent s'aligner au contenu du plan opérationnel provincial avec un accent sur les 5 piliers, entre autres la participation politique des jeunes, la prévention, la protection, le partenariat, la démobilisation et la réinsertion. Et aujourd'hui, nous pensons que les jeunes, ce qu'ils ont à faire, c'est de continuer à s'approprier la résolution 2250. Et nous disons également merci aux partenaires qui ont aidé à mettre en place ces secrétariats techniques. Nous parlons de la MONUSCO qui vient apporter un plus pour essayer de rendre matériel les contenus de la résolution 2250.
Des travaux organisés donc à Beni dans le Nord Kivu. Notez que ce secrétariat technique provincial bénéficiera de l'accompagnement technique de la section des affaires civiles de la MONUSCO. Cela en vue d'atteindre les objectifs fixés par la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous restons en Kivu. Les casques bleus sud-africains basés à Eringeti ont assisté mardi dernier l'école primaire de Ndalia, située dans la province voisine de l'Ituri, à travers un don en matériel et fournitures scolaires. Cette assistance réalisée dans le cadre des activités civilo-militaires de la MONUSCO est destinée à améliorer les conditions d'études des enfants. Au total, 152 élèves, dont 75 filles et des enseignants, ont bénéficié de ce geste. Précision avec Marcel Papimoukeba.
Les dons comprennent 20 pupitres, des cahiers, des stylos, des crayons ainsi que du matériel pédagogique pour améliorer les conditions d'apprentissage. Les élèves et les responsables de l'école ont salué cette initiative des casques bleus en faveur des enfants vulnérables, notamment les déplacés et orphelins affectés par les violences. Le projet bénéficie aussi aux élèves des villages voisins dont Katabeyi, Biané et Mufutabangi. Par la même occasion, la MONUSCO a sensibilisé les bénéficiaires à son mandat à l'importance de la collaboration avec les services de sécurité ainsi qu'au système d'alerte précoce. Une séance d'information sur les dangers des engins explosifs improvisés a également été organisée avec un appel à la vigilance. Les élèves ont été encouragés à signaler tout objet suspect aux adultes ou aux autorités compétentes. Les bénéficiaires ont salué cet engagement de la MONUSCO et promis de renforcer la collaboration avec les casques bleus. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso prête serment pour un cinquième mandat à la tête du pays. Le chef de l'État congolais, 82 ans, dont 41 ans cumulés au pouvoir, a été investi hier. Il a été réélu avec près de 95% de voix le 15 mars dernier. La cérémonie a eu lieu dans un stade à Kintele, dans la banlieue nord de Brazzaville. C'est en présence de centaines de milliers de Congolais et d'une dizaine de chefs d'État africains, dont le président Félix Tshisekedi. Les dirigeants militaires du Burkina Faso ont ordonné mercredi la dissolution d'une centaine d'associations et d'organisations de la société civile. Au total, 118 associations toutes basées au Burkina Faso et dont beaucoup sont engagées dans la défense des droits humains sont désormais interdites de fonctionnement selon un communiqué du gouvernement. En juillet 2025, le chef de la junte, le capitaine Ibrahim Traoré, avait signé une loi restreignant les activités des organisations de défense des droits humains ainsi que des syndicats.
L'invité.
La Fédération des entreprises du Congo Grand Bandundu dénonce la multiplicité des barrières érigées sur la route Kinshasa-Kikwit. Pour son président, devant chaque barrière érigée par la police des circulations routières, les camionneurs sont obligés de payer des sommes exorbitantes avant de passer. Fifami Kabar affirme que le Kinshasa-Kikwit, il faut compter au moins 15 barrières réunissant plusieurs services étatiques. Cette situation est la principale cause de la hausse du prix des produits provenant des provinces démembrées du Grand Bandundu. Fifami Kabar s'entretient avec Blaise Chindani Kambala.
Fifami Kabar, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Que dénoncez-vous exactement concernant les barrières sur route nationale numéro 1?
La Fédération des entreprises Grand Bandundu dénonce la multiplicité des barrières sur la nationale numéro 1. Tronçon qui fuit Kinshasa. Dans la partie Pulu, la PCR a érigé des barrières à chaque 30 km où elle s'avertit à rançonner les camionnaires. Oui, j'insiste que rançonner les camionnaires, c'est parce qu'ils n'établissent aucune note de perception. Donc, et puis, avec la DGM, chaque passager doit payer au moins 1000 francs congolais avant de passer. Donc, à la partie Kinshasa, comme au Kwango, tous les services d'assiette se sont ajoutés aux barrières de la PCR pour tracasser le camion qui passe sur la route, la nationale numéro 1. Vraiment, cela influence la hausse des prix sur les marchés des Kipit comme des Kinshasa.
Oui, dites-nous, toutes ces barrières sont-elles légales ou non?
On va dire légal comment? Est-ce que, imaginez-vous, dans la partie Pilou, à chaque 30 km, on va mettre une barrière. Alors, est-ce que c'est légal? Bien sûr, mais cette multiplicité, c'est ça qui forme la tracasserie.
Vous avez au moins combien de barrières?
De Kinshasa qui quitte, faut compter au moins 15 barrières. Au moins 15 barrières. La route nationale numéro 1, de Kinshasa qui quitte, 15 barrières, je vous dis. Ajoutez encore le pont Bastille qui sème la terreur à Minkau.
Monsieur Mikabar, existe-t-il une réglementation claire sur leur nombre et leur fonctionnement?
Oui, mais vous savez, notre pays est bien organisé. Il y a la loi sur les barrières, il y a la loi sur l'exploitation de la route nationale. Donc, on ne peut pas trouver autant de barrières comme ça. Oui, mais je ne sais pas. La radio Ekapi est suivie dans toute la République, dans la partie Congo central. C'est pas comme dans le Grand Bandundu. Vous savez, cette route traverse trois provinces. Il y a la partie Kinshasa, Kwango et Pilou. Donc la nationale numéro 1 traverse trois provinces. Et chaque province envoie les agents des services d'assiette qui se joignent à la PCR pour demander vraiment des taxes que vous ne pouvez pas imaginer. On vous exige, on exige même aux camionneurs de payer la feuille de route. Vous imaginez un camion en voyage, on vous surprend en plein voyage pour vous demander, pour vous obliger de payer la feuille de route.
Pourquoi ce phénomène persiste-t-il?
Oui, mais maintenant nous passons à la dénonciation pour que les autorités, parce que nous on ne sait pas à quel sens se vouer. C'est pour cela que nous sommes passés à la dénonciation, pour que les autorités compétentes puissent se saisir de la situation.
Alors dites-nous, messieurs, quel est l'impact de cette situation sur le coût du transport des marchandises? Comment cela affecte-t-il le prix des produits sur les marchés?
Oh, mais c'est vraiment, ces services-là ne savent pas qu'ils sont en train de nuire à la population, parce que sur le marché de Kinshasa, les produits agricoles, le prix a beaucoup augmenté. Il y a déjà hausse de prix sur le marché de Kinshasa, à Kikwit aussi, là où on déverse le produit manufacturé. Mais on vous demandait, on vous dira qu'il y a déjà la hausse de prix aussi de l'autre côté. Donc, cela a un impact négatif sur la population.
Et quelles sont les solutions concrètes que propose la FEC pour réduire ces barrières ou trouver la solution à ce problème?
La FEC demande l'implication des autorités nationales pour que le bon climat des affaires puisse régner dans la partie Grand Bandou.
Notre cri d'alarme est lancé vers la direction du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Lui qui a toujours œuvré pour le bien de la population, son implication pouvait nous donner la solution par rapport à ça. Et surtout que nous connaissons tous la réalité qu'avec les entités décentralisées, et c'est plus les recettes. Donc l'implication du vice-premier ministre pouvait vraiment nous donner la solution par rapport à cette tracasserie qui ne dit pas son nom sur la route nationale numéro 1.
FIFA Mikaba, président de la Fédération des entreprises du Congo dans l'espace Grand Bandundu, je vous dis merci beaucoup.
Merci, monsieur le journaliste.
Merci Blachindani, merci également à vous qui venez de suivre ce journal. Il a été préparé par Jude Mister Bilanda et mis en onde par André Mungu. Bon début de week-end.